Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Si on sait que la crosse est un peu à l'origine du sport du hockey parce que c'est une influence qu'il y a eu, qu'en est-il du soccer, le football qu'on appelle à partout dans le monde sauf au Canada? Il y a quelqu'un qui a mis la main sur l'origine du soccer. C'est un sport qui était pratiqué en France depuis au-delà de 1000 ans pour vrai. Parce qu'en 1066, Guillaume le Conquérant est traversé en Angleterre et on soupçonne qu'il aurait là transporté ce sport pratiqué en France dans la région de la Picardie principalement. Okay. Ça s'appelle la ou la chôle ou la choule. C'est le même nom, c'est
Romuald
le même sport.
Romuald nous l'écrit sur la messagerie texte. Est-ce que c'est la choule?
La choule, la choule. Et il faut comprendre une chose, dans ce temps-là, le sport, il y avait... Écoute, c'est pas clair. Ce qu'on sait, c'est que c'était violent. Il y en a qui disent que c'était très violent.
À date, c'est ami. La choule, violent.
Ouais, non, non. Mais le jeu est quand même assez simple. Il y avait des équipes, à un moment donné, c'était les hommes mariés contre les célibataires. C'était les maçons contre les menuisiers, okay, mettons. Et on opposait donc des groupes d'individus comme ça. On se servait de la choule aussi comme entraînement militaire. Donc, on comprend que c'était okay, très viril. Mais attention, les femmes aussi jouaient. Là. Des fois, c'était dans le village qui était séparé en deux, littéralement. L'idée, c'est de prendre un ballon qu'on transportait avec nos mains. C'est en fait, la mise en jeu était faite avec les mains.
Okay.
Mais après ça, c'était avec les pieds que c'était déplacé à travers le village. Il fallait aller le porter. Écoute, les règles sont compliquées. Là. Je connais pas le sport de la choule tant que ça. Mais donc, il fallait aller porter le ballon, exemple, sur le porche de l'église à un bout du village, ou dans une mare à l'autre bout du village. C'était comme les buts. Et on déterminait, donc, la game, c'est une game de 5. Fait que la première équipe qui parvenait 5 fois à aller porter la choule d'un bord ou l'autre
comme
du
village.
Comme
un mélange de drapeaux, là, si on veut.
Exactement. Et écoute, c'était... Puis le ballon qui était pris, c'était... Ça allait d'une boule de bois à une vessie de porc remplie d'air, à une vessie un poumon d'animal rempli, un intestin d'animal, pardon, rempli de paille, ouais, de n'importe quoi. On a même joué pendant un petit bout de temps avec un coq vivant. Ah. Et finalement, il y a un roi qui a dit, OK, ça n'a aucun sens, là, parce que ça tue littéralement l'animal quand on le kick. On va arrêter de faire ça, pour vrai, même si c'était barbare à l'époque.
C'est un excellent repas aussi, à cette époque-là.
C'est un excellent repas, mais en même temps, c'est
5 buts, t'as des ailes, c'est sûr.
C'est parce que t'as dit ça après 5 buts. C'est de là que ça vient probablement. Mais en fait, l'animal, c'était pas là par hasard. C'est qu'il y avait aussi des combats de coqs. Et il y a un maire de village qui avait dit, moi, je veux le coq gagnant et ça va être le ballon pour la game de choule, imaginez-vous. Non. Mais il y a certains villages où ça a dégénéré. Il y a eu des cas qui ont été traînés en justice. Il y a même des gens qui ont perdu la vie. Parce que quand tu jouais dans le village... C'était tout le village qui était le terrain. Il y a même des femmes, il y a même des gens qui étaient attaqués, qui disaient, hey, moi, je joue pas vraiment, mais ils mangeaient une shot pareil parce que le jeu, c'était de bloquer l'autre équipe. Mais même si t'avais pas le ballon, ils faisaient tout pour empêcher l'autre de progresser avec le ballon. Et c'est vraiment l'origine. Ce jeu-là a été joué jusqu'en quelle année, d'après vous?
Des
années 1000, mettons, le 1100 jusqu'en 1946.
Attends, 1946.
En 1946, au tournant de la guerre, on a décidé d'arrêter de pratiquer la choule comme on la connaissait à l'époque. Donc, des villages au complet qui se mettaient à jouer à ça.
Mais c'est drôle, par exemple.
Il y avait une game par année et c'était au Mardi Gras principalement. Mais en 2001, il y a une gang de Français qui ont décidé de faire renaître la choule. Il y a deux sortes de jeux. T'as la choule et la choulette. La choulette, là, ça ressemble vraiment au hockey sur gazon. Là. Ils ont vraiment des bâtons de bois, des crosses en bois. Okay. Puis ils jouent comme sur la pelouse. Il y a des règles du jeu qui ont été élaborées en 2001 pour faire revivre ce jeu-là, ce sport-là. Il n'y a pas de ligue comme telle, mais il y a des équipes et il y a des matchs. Une quarantaine de matchs de choule par année. Et c'est un sport donc qui reprend la vie. Est-ce que ça va toffer encore 1000 ans?
On le fait à l'Assomption, Martin.
Je ne sais pas, mais c'est l'origine du soccer. Ce serait une des origines du soccer. Oh ben. La choule, un sport tout à fait violent.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques!
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
C'est dans le journal de Montréal, entre autres, et dans la presse aussi. Le procès de deux policiers qui a cours au palais de justice de Montréal. Pour nous en jaser, Bénédicte Lebel, qui est journaliste judiciaire avec notre équipe consoeur ici du 98.5. Merci d'être là, Bénédicte, ce matin. T'as assisté à ce procès-là, toi. T'étais là hier.
Oui, début du procès du côté du palais de justice de Montréal. Deux policiers du SPVM qui sont accusés d'avoir séquestré et menacé un itinérant avec une arme à feu. Et je te dirais qu'on a vu un témoignage assez troublant hier de cet itinérant-là. Ce sont les policiers Pierre-Luc Furlotte et Patrick Gay qui sont accusés de l'avoir menotté, de lui avoir mis un sac de poubelle sur la tête avant de le menacer, de lui tirer une balle dans la tête sur le bord de l'autoroute.
C'est épouvantable.
Et c'est ce qu'il a raconté, Toby Charles Angers-Levasseur. C'est un itinérant de 37 ans. Comme je te disais, témoignage solide, témoignage troublant. Les policiers ont été accusés en 2018 de séquestration, voie de fait, menace de mort. Et les événements remontent au 31 mars 2010. Je vais te revenir un petit peu plus tard.
C'est ça, il y a 12 ans.
Il y a un écart quand même. Mais je veux qu'on entende d'abord un extrait de l'appel 911 que M. Angers-Levasseur a fait le soir des événements.
911.
Je viens me faire séquestrer par des policiers de la ville de Montréal.
Monsieur, vous voulez vous plaindre des policiers ou quoi?
Bon, ben oui, parce que tu sais que j'ai refermé le sac de poubelle avec du sac autour de la tête. Ils m'ont emmené dans le coin de Saint-Anne de Bellevue. Ils m'ont lâché là en faisant menacer de me tirer une balle dans la tête sur le bord du char.
Disons que ça donne froid dans le dos quand on entend ça, là. Mm-hmm. Et ce qu'il dit ce soir-là, c'est que, bon, il s'est fait interpeller parce qu'il a lancé un arbuste décoratif dans la rue. Lui a expliqué qu'il s'était fait voler de l'argent. Il était pas content. Et quand les policiers sont arrivés, ben, ce sont des policiers du coin, qui le connaissent bien quand même, qui le connaissent aussi comme un consommateur de fentanyl, de cocaïne, qui quête souvent dans le secteur. Et ce qu'il a raconté, c'est que les policiers se seraient mis à l'insulter. Il dit que les policiers le traitent souvent de vidange, lui suggèrent souvent de s'enlever la vie.
Ben, voyons.
Quand il s'est fait interpeller cette fois-là, il dit « J'avais un crayon noir dans ma poche et il y a un policier qui a essayé d'écrire dans mon visage pour m'humilier avec ce crayon-là, finalement, qui fonctionnait pas. » Et il dit qu'il avait peur que les policiers l'embarquent et l'amènent à l'autre bout de la ville avant d'être abandonné à lui-même, comme c'était déjà arrivé auparavant. C'est ce qu'il a mentionné. On n'a pas eu trop de détails sur le nombre, sur
quand
ça s'est produit.
Donc, ça n'aurait pas été la première fois, selon lui.
Et on a quand même déjà entendu parler de ce genre de pratique qui, évidemment, est interdite, mais on a déjà entendu parler que ça s'est passé, qu'il y a des cas qui se sont retrouvés en déontologie policière. Et finalement, c'est ce qui serait arrivé. Selon le témoin, les policiers l'aspergent d'abord de Windex pour enlever l'odeur. C'est ce qu'ils ont dit.
Voyons.
Lui mettent un sac de poubelle sur la tête avec du papier collant. Ils prennent la route, continuent à l'insulter. Ils l'encouragent à se jeter en bas du pont. Et quand le véhicule s'est arrêté, lui, il dit qu'il a été sorti de la voiture, placé derrière la voiture, derrière le coffre. On l'a mis à genoux. Avait toujours le sac de poubelle sur la tête. Il dit, j'ai entendu le déclic d'une arme à feu derrière ma tête. Il faisait des blagues en se demandant c'était autour de qui de tirer, qui allait se débarrasser des itinérants comme ça. Il dit, j'étais à genoux avec le sac sur la tête, à côté à l'autopatrouille. Je voyais rien. Finalement, les deux policiers aurait libéré M. Angers-Levasseur en le laissant seul sur le bord de la route. Lui, c'est pas trop. Lui, c'est pas trop. Il est où, en plus?
Ben non,
il
y a
beaucoup de faits, tu sais, un sac, un déclic d'arme à feu, des insultes. Tu sais, il y en a beaucoup. C'est
chargé, là. La preuve est drue.
C'est difficile d'inventer une histoire comme ça, là. C'est ça, mon impression. C'est que c'est tellement de plein de petites choses.
Et des années plus tard, et là, en plus, je vous fais un résumé quand même, parce qu'il y a eu un premier sac. Le sac s'est envolé par la fenêtre. Il serait retourné au poste de police. Il y aurait eu un deuxième sac avec du papier. Et l'affaire, lui, il dit, j'étais paniqué, en état de crise. J'étais heureux d'être en vie. Et l'affaire, c'est qu'il savait pas où il se trouvait. Et finalement, ben, c'était sur la voie de dessert de l'autoroute 40 à Kirkland. Il a réussi à avoir de l'aide d'un automobiliste qui l'a amené à une station-service, qui a appelé le 911. C'est cet appel-là que je vous ai fait appeler. Et même l'appel 911, là, c'est pas évident, parce que les gens lui demandent, OK, mais pour prendre votre plainte, il faut un numéro de téléphone. Le monsieur dit, je suis itinérant, j'ai pas de numéro de téléphone. Ben, rendez-vous dans un poste de quartier.
Il l'envoie pas là. Lui, là, cet appel-là, Bénédicte, c'est en 2010, donc il a été posé au moment des faits, là, quelques minutes, quelques heures après, là, on devine.
31 mars. Ben, en fait, il réalise où il est, réussit à se faire embarquer par un automobiliste qui l'amène à la station-service vraiment tout juste à côté et c'est là qu'il appelle.
Direct là.
Le 911.
Qu'est-ce qui explique que ça arrive en 2010, on en parle en 2018 puis finalement, il y a un procès en 2022, là?
De ce qu'on comprend, c'est que lui a porté plainte à ce moment-là. Les affaires internes de la police de Montréal avaient choisi de passer à autre chose et là, il y avait quand même des conflits au SPVM dans une certaine période et là, lors de révision du dossier...
Des conflits à l'interne ou des conflits avec l'itinéraire? adhérents?
Non, non, des conflits okay. à l'interne. Et lors d'une révision du dossier par une équipe externe en 2018, c'est là qu'ils ont finalement été accusés, sont quand depuis bien. Suspendus sans solde. Et là, c'est le début, parce que ça fait 4 ans, un procès, c'est normal quand même dans les délais. Et là, ben, on a entendu hier le témoignage. Aujourd'hui, ça va être le contre-interrogatoire qui risque d'être serré quand même. Ouais. Je veux juste rappeler que c'est un homme ouais. à qui consomme encore, et il le dit bien ouais. ouvertement, il est encore dans la rue, a fait du temps de prison, consomme encore du fentanyl. Donc, j'ai l'impression que le contre-interrogatoire sera assez serré. Ce qu'on veut dire aussi, on parle d'une documentation volumineuse des registres d'appels de policiers. Est-ce qu'on est capable de les situer ce soir-là? Proche de ben l'autoroute oui. 40. Donc, tout ça voudrait oh. dire quelque chose.
Ça viendrait corroborer la version de M. Levasseur.
Oui. Donc, disons qu'on va suivre ça assez.
Ben, merci infiniment d'être venu nous expliquer ce dossier-là, quand même surprenant et choquant ce matin. C'est dans l'actualité un peu partout. Ça revient dans l'actualité après plusieurs années. Merci, Bénédicte Lebel, journaliste chroniqueur judiciaire. C'est comme ça que ça se dit ouais. Pour le 98.5, notre station sœur ici au 96.9. C'est quoi?
Des comiques, de retour après ceci.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
On va se parler d'une éruption volcanique. Le volcan Mauna Loa à Hawaï qui est en train d'éruption pour la première fois en près de 40 ans hier. C'est des classiques, là, les volcans d'Hawaï. On le sait, là, le Mauna Kea, entre autres. Je pense qu'on peut régulièrement le visiter. Il y a presque tout le temps une légère coulée de lave qui va mourir dans l'océan. On peut trouver des images facilement de ça. C'est toujours beau la nuit. Les images nocturnes sont magnifiques. Le feu c'est l'incandescence qui illumine le ciel.
Ouais, même si c'est dangereux, c'est beau. Là,
c'est dangereux, mais c'est beau. Mais il y a quelque chose de tranquille. C'est jamais des éruptions. Il n'y a pas d'augmentation de pression là, à Hawaï. C'est vraiment en coulée continue, okay. plus qu'une chambre qui se construit, puis que ça explose à un moment donné, comme le mont Washington. Les plus vieux vont se rappeler, je pense, c'est en 80 ou 81, le mont Saint-Hélène, pardon, dans l'État de Washington, qui avait explosé dans la côte ouest. Il y avait même eu de la poussière jusqu'ici au Québec, tellement oh. ça avait fait une traînée. Et il y a Mario qui nous écrivait, Mario Jalbert, il dit, moi, j'étais à Vancouver, et pendant 2 semaines, on était dans l'obscurité, tellement il y avait de la poussière wow. volcanique. Puis c'est une couple de kilomètres, une couple de 100 kilomètres
au-dessus. Un genre de smog.
Un genre de smog qui persiste dans l'air. Je me souviens d'un volcan, le Pinatubo. On se souvient de ce nom-là en Indonésie qui avait explosé, qui avait érupté il y a une trentaine d'années peut-être. Puis on avait eu des traînées de poussière vraiment sur plusieurs, jusqu'en Europe, si je me souviens bien, de ces effets-là. Mais nous, ce qu'on veut savoir ce matin, on cherche, on pense qu'en gang, on a tous vécu. C'est quelqu'un qui a vécu proche d'une éruption volcanique, quelqu'un qui a dû quitter un moment rapidement, qui a dû être évacué, quelqu'un, au pire, quelqu'un qui a vu les coulées à Hawaï, là, qu'on nous décrive un peu ça. Moi,
quelqu'un
j'ai jamais...
qui a vécu un film, finalement.
Ben oui,
parce
c'est
que
ça.
C'est vraiment dans les films qu'on voit
Dante
ça.
Dante's Peak.
Oui, c'est ça.
Le sommet de Dante. Donc, si vous avez vécu quelque chose comme ça, est-ce qu'on a trouvé quelqu'un ce matin? Parce qu'en gang, on a tout vécu.
Croire! Quelqu'un pour vrai!
On a trouvé quelqu'un
pour vrai. On y croyait pas matin. On a Andréane!
Andréane, qui a vécu une éruption pendant un voyage en Indonésie alors qu'elle dormait sur la montagne.
Oh. Hey, ça, tu snooze pas ça, là.
Pas fallu qu'elle parte? Ouais. Ben voyons donc, on jase avec Andréane dans un instant dans Debout les comiques. À gang, on a tous vécu une éruption volcanique.
Le podcast Debout les comiques.
Le volcan Mauna Loa qui est en éruption, se faisait pour la première fois en 40 ans dans l'archipel d'Hawaï. Les volutes là, vraiment la lumière de ce volcan là puis les effluves de fumée, c'est visible à 70 km quand même. Hey. Tu vois ça monter dans les airs, mais comment c'est vivre une éruption volcanique, comment c'est vivre une coulée de lave, commencer à être obligé de se sauver parce que le volcan va entrer en éruption. On a trouvé quelqu'un, on pensait qu'à la gang on avait tout vécu, c'est notre prétention dans Debout les comiques. Ben, on a encore réussi ce matin. On a trouvé Andréane qui va nous raconter son histoire. Allô, Andréane.
Bonjour.
Andréane, merci de prendre du temps pour nous. Toi, c'est arrivé.
Ça se passe où, ton histoire?
J'étais en voyage avec ma belle-sœur en Indonésie. J'avais plusieurs amis qui étaient déjà allés. Puis on dit, il faut que tu gravir le Rinjani. C'est vraiment un beau volcan. C'est un grand volcan immense. Puis c'est une belle randonnée. Fait que ma belle-sœur et moi, on dit, OK, c'est beau. Dans notre to-do list en Indonésie, il y avait ça au sommet de notre liste. On décide de partir, c'est une randonnée de quelques jours. En fait, on dort 2 fois, 2 nuits sur le Rinjani. Donc, la première nuit, on est comme sur l'ancien cratère. Le volcan était immense avant, puis il a déjà explosé. Donc, il y a comme tout un rime autour du
volcan. Ouais, je vois l'image, là. Fait qu'il y a vraiment comme une bosse dans le milieu, comme d'un lac, mettons, là.
Oui, exactement. Dans le fond, dans le creux du cratère, il y a un lac, puis il y a la nouvelle cheminée qui, avec le temps, s'est formée à ce moment-là. Donc, nous, on dort autour là, la première nuit. C'est une randonnée très difficile, mais ce qui est beau, c'est qu'on voit des anciennes coulées de lave pendant qu'on monte. C'est assez impressionnant. Puis, en haut, ben le ciel est dégagé, c'est super beau. On dort là, première nuit, on est bien fiers d'avoir fait la partie qui est supposément la plus difficile. Puis, on doit se faire lever aux 6 heures du matin pour aller au plus haut sommet là, de ce cratère-là, voir le lever du soleil. Donc, on se fait réveiller à 2-3 heures du matin. Jusque-là, tout va bien. On était bien contents. Puis, il y a vraiment beaucoup de monde sur le volcan, donc on parle à du monde un peu partout. On part, mais là, on marche dans du sable volcanique, donc deux pas en avant, un pas en arrière. C'est assez exigeant.
OK, c'est un peu comme mouvant.
C'est sablonneux.
Ça bouge beaucoup.
Oui, vraiment. On arrive en haut pour les 10 heures du matin. Tout est beau, mais c'est pas tout le monde qui se rend jusqu'en haut. Fait qu'en redescendant, on croise une Québécoise de notre groupe qui nous dit « Ah, moi... quand j'ai senti le tremblement de terre, j'ai arrêté mon ascension, c'était assez pour moi. » Le tremblement de terre, nous autres, on n'avait pas du tout senti ça. Fait qu'on n'est pas trop certains, là. Coudonc, je sais pas, on redescend. Puis, on dîne, et là, c'est le moment d'aller descendre dans le cratère pour aller s'approcher de la cheminée, finalement, là, d'où on...
La lave en fusion, là.
À ce moment-là, il n'y avait pas de lave en fusion. Okay. Il y avait de la fumée. Là. C'est un volcan qui est actif. Donc, des fois, il y a des gaz qui s'échappent. Ouais. Il y avait quelques années avant, il y avait eu de la lave qui était sortie. Donc, probablement, on aurait vu des belles formations rocheuses. Puis, au courant de la journée, comme c'est comme dans un cratère, ben, les nuages se forment à l'intérieur. Donc, il faut vraiment s'en approcher, descendre sous les nuages pour pouvoir voir le lac et la fumée. Donc, on dîne, on descend, on commence à descendre, puis là, on est vraiment dans les nuages. Ça fait 15 minutes qu'on descend des roches naturelles. C'est exigeant, mais c'est quand même agréable. Puis on voit rien autour, et là, on entend des explosions. Là, moi, je me dis, ils font de l'exploitation minière.
T'entends vraiment des explosions à ce moment-là.
Oui, puis c'est la première chose que je me dis, des explosions minières. Mais là, tu regardes après ça le guide. Il y a eu la fraction de seconde qui n'a pas pu contrôler ses expressions faciales. Puis, non, là, c'est pas un bon signe si on entend des explosions. Puis tu réalises que tu fais pas d'exploitation minière dans un volcan actif.
Ben non! Et là, qu'est-ce qui se passe?
Ben, tu réalises que c'est le volcan qui est en train d'exploser, mais tu le vois pas. Toi, t'es dans les nuages complètement, là. Ça marche pas, là. Alors, très rapidement, sans que personne ne se passe le mot, on se met à courir pour remonter les marches qui nous avaient pris peut-être 15 minutes à descendre. Nous en prend pas plus que 5 à remonter.
Je comprends.
Ma belle-sœur me dit « Laisse faire ton sac! Vite, monte! » Parce qu'elle est arrivée en haut avant moi. Je me dis « Ben, ta minute, là, si je suis pour mourir, mais mourir paisiblement au moins. » Je m'imaginais juste la lave monter puis me brûler les pieds. J'imaginais ça, tu sais. Finalement, on arrive sur le bord du volcan, là, du cratère. Puis là, on voyait toujours pas le volcan, donc on savait pas qu'est-ce qu'il en était. Mmh. Il y a de la lave partout, mais on a comme repris un peu notre sang-froid, puis on savait qu'on était suffisamment loin du volcan, là, de la cheminée, pour pas être en danger.
Mais finalement, ça s'est avéré, là. Vous étiez en danger.
C'est ça. Oui, absolument. Puis les aéroports ont été fermés pendant 2-3 jours, donc à cause des gaz toxiques qui échappaient du volcan. Parce que,
incroyable.
On était comme pris sur l'île, mais pas en danger.
Mais écoute, c'est vrai. T'as dû quand même, au moment où t'as entendu, que t'as compris que c'était l'activité du volcan, puis que t'as monté les marches en 5 minutes, ça devait être épouvantable le feeling en dedans quand même.
Mon cœur battait à trompe, j'ai jamais été aussi stressée que ça. Puis juste en reparler, écoute, je shake encore. Je me souviens, pendant 2 jours après, on entendait les compresseurs de plonger, partir, puis on avait peur parce qu'on pensait que c'était l'explosion volcanique. Mais on a eu comme un stress post-traumatique.
Tu retourneras-tu?
Oui. J'ai dit non, je vais pas sur un volcan. Non. Moi, je me suis dit, l'ascension de volcan, c'est non, pas pour moi.
OK. Merci, ma belle Andréane. Merci infiniment. On t'embrasse, puis content de savoir que ça s'est bien fini. Merci, Andréane.
Ben, merci.
Merci beaucoup. Dans Debout les comiques, à la gang, on a tout vécu. Andréane m'a dit une affaire. Elle a vécu quelque chose que je suis pas sûr que j'aurais pas paniqué, moi, avec. Là.
Faudrait faire le récapitulatif de tout ce qu'on a vécu avec les auditeurs. Oui. Il y a
on
tellement de situations.
On s'est tiré dans un hélicoptère. On a subi une transplantation cardiaque, un moment donné.
Tremblement de terre.
On s'est fait arrêter par la police violemment. Tornade.
Oh, oui.
On a vécu des affaires en tabarouette. Tremblement de terre au Japon, c'était quelque chose, ça, je me souviens. Hey, fantastique. Merci beaucoup, tout le monde, de vos nombreux messages à part de ça.
Le podcast Debout les comiques.
C'est le moment, mesdames et messieurs, qu'on attend à chaque matin. C'est le gala des comiques et on commence tout.
C'est Debout les caves.
Oui.
On va garder cette là parce que c'est niaiseux sur un moyen temps.
Veuillez accueillir Sabrina, l'heureux auditrice, qui nous a envoyé l'histoire de deux nos filles qui rentrent dans une pharmacie. Ils demandent au pharmacien une boîte de suppositoires. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils sortent à l'extérieur, tout ça. Quelques minutes plus tard, ils rentrent dans la pharmacie. Hein? Ils demandent une deuxième boîte de suppositoires. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils ressortent. La pharmacie est un peu dans le point d'interrogation. Ils rentrent à nouveau.
Mais voyons!
Une troisième fois. Ils demandent une troisième boîte. La pharmacienne les regarde et elle demande « Coudon, les mangez-vous, les suppositoires? » Un des newfies répond « Ben non, on se les met dans le cul. » Je la trouve excellente.
Ben non, tu sais.
On se les met dans le cul.
Hey, c'est un avion qui s'écrase, comprends-tu? Survit le pilote, le copilote et l'hôtesse de l'air. Là, après une couple de journées, le copilote, il dit, ben là, sexuellement, on fait comment? Et le pilote, il dit, ben gars, une journée. Puis là, l'hôtesse de l'air, elle dit, ben moi, ça me va. Fait qu'ils vont avec cet arrangement-là, puis ça va bien. Sauf qu'un moment donné, l'hôtesse de l'air, elle se fait piquer par un serpent puis elle meurt.
Non!
Là, après ça, le pilote puis le copilote se regardent là, sexuellement, ils disent comment on va faire maintenant? Là, le copilote dit, ben, un jour. Tu sais, le pilote il dit, OK, fait que passe quelques semaines. Puis là, le pilote, à un moment donné, il dit, hey, sais-tu quoi, pour vrai? Je suis plus capable. Moi, je suis pas à l'aise. Là, le copilote dit, ben oui, moi aussi, il me semble, je suis content que tu le dises. Là, il dit, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, il dit, on l'enterre.
Oh non! Oh! Oh my God!
Je savais pas si...
On est
avec une joke de Nadia Robitaille. Nadia Robitaille qui vient de nous texter ça. C'est un couple qui se promène un petit matin d'hiver. C'est pas très, très chaud. Puis là, un moment donné, il passe devant un petit boisé. Puis la blonde, elle regarde le chum. Elle dit, hey, c'est-tu là que je vais te faire une petite gâterie? Puis là, le chum fait comme, hey, il y en est pas question. Elle dit, ah, t'as peur parce qu'il fait froid que tu vas avoir une petite quéquette? Et il dit, non, j'ai peur, tu te laques des dents.
Je sais pas ce qui me fait plus rire, si c'est la joke ou le fait que t'as réutilisé le mot quéquette. Oui, ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ça.
C'est comme tellement 82, là. Ça leur faisait une joke vintage, genre, tu le veux. Ah, oh, j'ai adoré. Hey, on peut-tu finir avec quelque chose d'un peu plus cute? C'est Cédric qui nous a envoyé ça. Hey, savez-vous pourquoi les éléphants ont les yeux verts?
Non.
Pour pouvoir se cacher dans un pot d'olive. Avez-vous déjà vu un éléphant dans un pot d'olive?
Non.
C'est bien caché, hein? Il est bien caché.
Ah, ben ouais.
Hey, on fait gagner les suppositoires.
Ah, ben ça.
Sabrina Leroux, tu viens de gagner 200$ chez Sale.
Mais non, je l'ai mis dans le derrière. Oh my God. Hey, on lâche pas ça.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.